Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Nous continuons notre série La mémoire en question. Et la question du jour est celle-ci. Quand la France commence-t-elle? Il y a deux façons de la comprendre. À partir de quand voit-on émerger les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui la France? Mais aussi, depuis quand un peuple a-t-il conscience d'appartenir à un destin commun et de se voir aussi un avenir commun? Bertrand Lançon s'est penché sur cette problématique qu'il porte depuis des années dans un essai passionnant qui explique comment la France s'est construite en cascades successives. Il est professeur émérite d'histoire romaine à l'Université de Limoges. Son livre est publié aux éditions Perrin. Bonjour Bertrand Lançon.
Bonsoir.
Alors, vous apportez une réponse à la question de votre titre « Quand la France commence-t-elle ?» À vous lire, on comprend qu'il se passe beaucoup de choses au 8e siècle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce siècle est clé dans la construction de la France?
Oui, l'historien est un peu approximatif, comme lorsque un enquêteur demande au médecin légiste quelle était l'heure du crime. Et le médecin légiste répond souvent entre telle heure et telle heure. Là, il s'agit de dire entre tel siècle et tel siècle. Et il y a un faisceau concordant pour dire que la France pourrait commencer au 8e siècle. D'abord parce qu'elle est régie, parce que le pays est régi sous le nom de Royaume des Francs par les rois mérovingiens depuis la fin du 5e siècle, que le mot Francia, le mot latin Francia qui désigne la terre occupée par les Francs est employé depuis le début du 4e siècle et pendant les 5e, 6e, 7e siècle, on continue à parler de Gaules francs et le mot Francia lui-même, pour désigner le royaume franc, est employé officiellement au 9e siècle, 843, les serments de Strasbourg, pour un partage successoral entre les enfants de Charlemagne. Et dans ce partage, dans le royaume de Charlemagne, dans son empire plus exactement, à partir de 800, il y a une Francia occidentale et une Francia orientale, c'est-à-dire un pays des Francs de l'ouest et un pays des Francs à l'est, entre lesquels se trouvait le domaine de Lothaire, la Lotharingie. Et donc, le mot Francia est ici utilisé pour nommer des pays, et le mot Gallia s'est retiré. Voilà pour l'époque carolingienne. Sauf que la chanson de Roland, épopée en vieux français, pour simplifier les choses, qui est du XIIe siècle. Lorsque ce texte épique parle des féaux de Charlemagne, il les appelle les Français. Les Français, et lorsque le texte évoque le pays, il évoque la France douce. Donc, Français et France sont considérés comme des entités réelles, à l'époque du XIIe siècle. Et je dirais donc, en médecin légiste, que c'est entre le 8e et le 12e siècle que l'on passe d'une Gaule franque à un royaume qui s'appelle France.
Alors nous allons parler territoire. Il y a comme un déplacement de l'épicentre de ce qu'on appelle aujourd'hui la France, qui au début correspondait aux Gaules lyonnaises et qui se déplace vers le domaine royal autour de Paris.
Oui, dans les Gaules romaines, la capitale c'est Lyon. C'est la capitale des trois Gaules, la Belgique, la Lyonnaise et l'Aquitaine. Et si Lyon garde un prestige dû à sa au fait d'avoir été une colonie romaine, les Francs, eux, rappelons-le, viennent du Nord, ont longtemps séjourné dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, et ils s'installent, les rois francs, dans ce qu'on pourrait appeler la France du Nord. C'est-à-dire que le changement qui s'opère ici, c'est le glissement d'un centre de gravité de Lyon au bassin parisien et au nord du bassin parisien.
Et on a l'impression aussi qu'il y a un glissement du pluriel au singulier. Il y avait les Gaules, il y avait deux Frances, oui. Vous nous l'avez dit, à l'est et à l'ouest.
Oui, absolument.
Et nous avons Francia. Mais...
Alors ce pluriel géographique était un pluriel administratif pour les Romains parce que ces noms désignaient des provinces qui chacune avait leur gouverneur. Or, toutes ces provinces ont été subverties par les Francs, surtout par Clovis à la fin du 5e et au début du 6e siècle. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que Clovis unit en un seul royaume les trois Gaules romaines, auxquelles s'ajoute aussi la Narbonnaise qui a été prise sur les Visigoths.
Alors avec Clovis, nous arrivons à la question des pères fondateurs, parce que vous avez parlé en historien pour voir comment a émergé au fil des siècles cette idée de France. Mais en relisant l'histoire, on a trouvé deux pères fondateurs selon les moments, selon les partis, selon les idéologies à la France. Il y a Clovis et il y a aussi Vercingétorix, et chacun représente une vision différente de la France.
Oui, c'est vrai. Et une des motivations de cet essai, c'est-à-dire pourquoi je suis passé à la plume, c'est que la constatation que aujourd'hui, la Vercingétorix est nettement surévaluée en tant qu'origine de la France par rapport à Clovis. Vercingétorix, si vous voulez, bien sûr, a fédéré quelques peuples gaulois contre Jules César, après d'ailleurs avoir été son partenaire. Et si vous voulez, je pense que Vercingétorix est le portrait robot du résistant tel qu'il a été forgé dans le 19e siècle de Prosper Mérimée et d'Ernest Lavis, c'est-à-dire de la monarchie de Juillet à la Troisième République. Résistance à l'occupant, bravoure guerrière, vaincu plein de panache. Et lui, c'est une victime, puisqu'il a été étranglé dans une prison romaine après un triomphe. Mais la racine gauloise sur laquelle on a cristallisé sur Vercingétorix, à mon avis, est nettement surévaluée. Clovis, lui, c'est un franc, certes, mais c'est un franc romanisé en très bons termes avec l'appareil romain, puisqu'il a reçu des titres de commandement militaire. Il a même été nommé par Anastase, l'empereur de Constantinople, consul honoraire. Et donc, il représente, en tant que franc, quelqu'un de romanisé. Et un de mes collègues de Caen me faisait observer récemment avec beaucoup de justesse que Vercingétorix et Clovis ont en commun ceci, c'est que la langue gauloise et la langue franque ont pour ainsi dire disparu et n'ont pas nourri la langue française de mots dans un nombre important. C'est comme si le franc, langue germanique, et le gaulois avaient disparu, et ça confirme que le français est bel et bien une langue latine, et totalement latine, même si elle emprunte aussi. Elle emprunte finalement plus de mots à l'arabe, la langue française, que de franc ou de gaulois.
Dans cette maison, la notion de langue française est importante.
Ah, bien sûr.
En quoi contribue-t-elle à cette construction de la France?
J'avance l'idée, et je ne suis pas le seul à le faire d'ailleurs, dans cet essai, que la langue française est elle-même en soi une patrie. J'en veux pour preuve que lorsqu'on lit les interviews d'écrivains français d'origine étrangère, je pense à François Cheng, à Hector Bianciotti, Romain Gary, Andrei Makin, qui, si je ne m'abuse, ont tous été immortels. Ils sont tous immortels. Eh bien, très souvent, ils ont pour trait commun de dire que, après avoir lu un livre, un classique français, ils se sont sentis appartenir à cette patrie-là. Donc, la France, en même temps qu'un État politique, est une patrie littéraire, sans aucun doute. Et c'est une langue par laquelle tout étranger peut se dire français, par une familiarité, par une relation amoureuse et charnelle avec la langue. Et ça, c'est quelque chose de très français. C'est le miracle de la langue française, en quelque sorte, que de pouvoir faire en sorte que tous ses locuteurs peuvent se dire français par la langue.
Alors, nous avons parlé des mythes fondateurs, pourrait-on dire, des fantasmes aussi qui peuvent les entourer. Sous l'Ancien Régime, ce qui est frappant, c'est qu'on, d'un point de vue du territoire, la France est une mosaïque de provinces et c'est vraiment la République qui va forger une unité. Comment se construit l'unité française, en particulier sous la Troisième République?
Bien d'abord, en faisant l'histoire, elle a flatté un peu l'origine gauloise plus que romaine. Et puis, elle a fait l'histoire de cette période de construction qui a été la période féodale. C'est-à-dire que la construction du royaume de France se fait contre un émiettement féodal. De ce point de vue-là, Philippe Auguste, Philippe le Bel et Louis XI sont des agrégateurs de terres qui accroissent le domaine royal et finissent par en faire, au XVe siècle, un pays qui a grosso modo les mêmes limites qu'aujourd'hui. Alors, la République, son principal défi, c'était de créer une école républicaine qui véhicule une mémoire longue, mais une mémoire qui transmette aussi des mythes et façonne une identité républicaine à la France, alors qu'elle avait un passé embarrassant pour elle. Dans la mesure où Clovis avait été baptisé dans le catholicisme et que la Troisième République œuvrait pour la séparation des Églises et de l'État et pour la laïcité, que la France de la Troisième République, c'était celle des conflits franco-prussiens, et que dans ces conflits franco-prussiens, comment assumer que Clovis était un franc et que les francs étaient des germains, comment assumer que Charlemagne était un empereur allemand? Donc, il y a eu tout un passé, toute une mémoire à modeler, je dirais, dans le sens républicain.
Et vous dites qu'il y a un mouvement centrifuge qui se dessine, qui s'accentue à ce moment-là, mais il y a aussi un mouvement centripète avec les colonies qui étendent la notion de France au-delà des frontières habituelles.
Oui, ce qu'on appelle la France transmarine. Mais c'est un sujet très brûlant actuellement. Et la façon dont j'aborde la colonisation, qui est un impérialisme évident, c'est dans un sens inverse. C'est-à-dire la civilisation créole, polynésienne, en quoi la civilisation maghrébine ou sud-asiatique, Khmer ou Lao, ou vietnamienne, en quoi tout cela a-t-il pu enrichir la France. Parce que la France coloniale, bien sûr, c'est une entreprise impérialiste indéfendable, mais la conséquence de cela, c'est que le monde entier a nourri la langue française, le monde entier a nourri, a coloré, a bariolé l'origine de la France. La France a continué de se constituer, de se modeler avec des apports extérieurs.
Aujourd'hui, c'est une question cruciale, celle-là, oui. Avec la société française que nous connaissons.
Oui, absolument. Absolument, et donc... C'est pour ça que je pense qu'il y a quelques années, l'entreprise dirigée par Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France, était une démarche salutaire pour montrer que la France, ça n'était pas qu'un axe vers Saint-Gédéric, Jeanne d'Arc, Napoléon. La France est très multiple et dès les origines, puisqu'en fait... en Gaule se sont côtoyés les Basques, les Gaulois et les Grecs avant l'arrivée des Romains et puis celle des Francs, des Visigoths, etc. Donc cette multiplicité n'est pas récente, elle est très ancienne, elle a eu ses hauts et ses bas, hein, elle est très fluctuante et de fait est que la deuxième grande phase d'immigration, c'est celle du XXe siècle, l'immigration de travail qui a porté des souches polonaises, italiennes, hispano-portugaises, arméniennes, maghrébines et asiatiques aussi. Donc, en fait, ce que reproduit l'immigration du XXe siècle, c'est quelque chose que les Gaules ont connu dès le VIe siècle avant Jésus-Christ et qui s'est poursuivi ensuite au cours de son histoire. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien d'alarmant à cela, puisque la France est elle-même, en quelque sorte.
Vous insistez sur le bon usage à faire du mot identité. Quel est-il, ce bon usage du mot identité ?
Oui, c'est un mot qui me gêne un peu, parce que j'ai peur qu'il soit piqué par l'idéologie comme une peau par une guêpe. Parce que si on prend le terme d'abord identité est récent. C'est quelque chose qui n'est absolument pas, qui n'existe pas en tant que concept dans l'Antiquité. Le mot identitas existe, mais ça signifie être le même que. Donc, si on prend la racine latine, l'identité, ça a quelque chose à voir avec l'uniformité. On est le même que. Or, précisément, l'histoire nous enseigne que... Il y a beaucoup de Français qui sont d'origines différentes, des origines multiples. Alors, en quoi sont-ils les mêmes ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une mémoire commune ? Mais tous n'ont pas la même mémoire. Hein. Un Breton n'a pas la même mémoire qu'un Franc-Comtois. Et puis, bien sûr, un Asiatique ou un Africain devenu Français... soit par ses parents, soit par lui-même, n'a pas forcément la même mémoire du pays. Mais il y a toujours une fibre par laquelle on peut s'assimiler à la France. Donc le terme identité fait peur parce que ça fait penser à une statue de marbre, alors qu'on est véritablement dans une glaise malléable. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que cette glaise... Elle a commencé à être modelée dans la haute antiquité, mais continue de se modeler aujourd'hui. Et je pense que la peur de perte d'identité, la peur donc de cesser d'être soi-même, est liée à une perte de repère et à un manque de sérénité par rapport à la vitalité multiple qui a fait la France et qui continuerait de la faire. S'il n'y avait pas toutes ces peurs.
Vous posez la question, quand la France commence-t-elle ? Certains, aujourd'hui, considèrent qu'elle finit. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que cette construction continue malgré tout ?
Alors là, vous vous adressez à un historien qui a écrit un livre sur pour nier la chute de l'Empire romain, je veux dire par là que l'Empire romain a bien pris fin, mais pas en termes d'effondrement. Il s'est au contraire éteint doucement. Il s'est éteint doucement, mais tout en irriguant de façon très forte les États qui l'ont remplacé en Occident et encore plus en Orient. Donc la fin, je n'y crois pas. Un historien américain d'origine japonaise avait lancé l'idée selon laquelle il y avait une fin de l'histoire. Moi, je n'y crois pas du tout. Tout se transforme. Tout se transforme. Et je pense que c'est la transformation elle-même qui crée des peurs. Et pourquoi a-t-on peur ? C'est parce qu'on manque d'outils de compréhension. On manque d'éléments d'information. Et c'est en partie pour laquelle j'ai fait cet essai de francoscopie, c'est-à-dire donner une boîte à outils à des lecteurs pour leur dire qu'il n'y avait pas d'apocalypse devant nous.
Et hein? Pour conclure, dans votre essai, vous plaidez pour une France romaine. Que voulez-vous dire par là ?
Je veux dire par là que, effectivement, la langue gauloise et la langue franque ont été totalement submergées par le latin, et que le français est une langue latine, vraiment latine. Et donc, attendez, j'ai perdu le fil de votre question.
Conclusion plaide pour une France
romaine. Ah oui, pour la romanité, oui. Oui. Il me semble que l'origine romaine de la France est quelque chose de primordial. Par la langue, par les institutions, les cités, les départements sont pratiquement des calques des cités gallo-romaines. La pensée politique aussi. On a commémoré Napoléon récemment, mais si on regarde les institutions du consulat et de Napoléon Bonaparte, elles sont puisées à l'antique. Le lycée, c'est grec, c'est l'école d'Aristote. Et le tribunat, c'est romain, c'est la République romaine. Les consuls, c'est la République romaine, et même au-delà. Et donc, je pense que la France a été anecdotiquement gauloise dans ses origines, mais que le pays a des racines extrêmement profondes dans la romanité. Mais cette romanité, elle a posé problème au XXe siècle parce qu'elle était revendiquée par le fascisme mussolinien, qui se voulait une réincarnation de l'Empire romain. Et donc une république démocratique pouvait difficilement se revendiquer aussi romaine comme l'était l'Italie fasciste. Mais je pense ici que l'héritage romain de la France qui la constitue, y compris dans son ouverture, parce que les Romains sont tout de même les inventeurs d'une citoyenneté quasi universelle. Et de ce point de vue-là, je pense que les Français se comprendraient mieux eux-mêmes et comprendraient mieux ce qu'est la France s'ils pouvaient ouvrir les yeux sur l'influence immense qu'a été celle de l'Empire romain.
Eh bien, un grand merci Bertrand Lançon. Vous nous laissez donc sur ce travail à faire en scrutant les origines romaines de la France. Je rappelle le titre de votre livre « Quand la France commence-t-elle » aux éditions Perrin. Un grand merci et à bientôt.
Merci de votre accueil.